Lui, ça s'appelle bien faire peur. Hein? J'ai dit Saint-Chabas? Tu parles du Sinaï, mais je te parle de la création du monde. Okay. C'est la même chose d'ailleurs. Oui. Non, c'est pas la même chose. Je vais te demander, tu te rappelles quand tu étais un palmier? Parce que ça nous expliquait que ça veut dire tzadik katamari fra. Okay. Bon. Alors, vous voyez que nous avons une lecture de la Torah qui est déroutante. Okay. Je peux commencer la Torah là. Les aînés col Israël, Bereshit Borel, que nous sommes éternels. Et ça finit par être Kolamora Gadol. Bon, vous avez suivi ça? Ok. Ça veut dire, la Torah, eh bien, comparez-la à un cercle. Il n'y a pas de commencement ni de fin. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Au niveau de la vérité, il n'y a pas commencement et de fin. La vérité est éternelle, d'emblée. Okay. Mais son dévoilement dans le temps a un commencement. Et c'est la raison pour laquelle je pense que seule la Kitagim, elle a étudié ça, mais je vous le rappelle, que la première question que Rashi pose, c'est que la Torah aurait dû commencer à la première des mitzvot qui a été révélée. Okay. Si déjà il faut trouver un commencement quelque part, okay, eh bien le commencement logique, c'est la première révélation à Israël. Vous vous rappelez de ça, okay, bon. Donc c'est qu'il y a une raison pour laquelle ça commence quand même à Bereshit. Bon, on n'a pas étudié ça toute la classe, non? À toute la classe? Quand? Un Shabbat. Nachon. Bon, peut-être que vous aurez une nuit d'études là-dessus. Quand? Je ne sais pas. Hein. Bon, il n'y a pas de commencement à être fait, donc. Bien. Alors, écoutez, on va s'arrêter un petit peu. Et vous allez me dire, non, très, très honnêtement, il est 11h45 à peu près, 43, donc 42 et demi. On prend un quart d'heure d'aération et de... Si vous revenez, on continue. Si vous ne revenez pas, on ne continue pas. Alors, c'est à vous. Au Pirou, je vous ai eu. Hein? Vous y êtes? Cinquième ligne, la deuxième colonne. Vous arrivez à lire sur vos textes quand même? C'est pas trop faible? Donc. Alors, au Pirou, je vous ai. C'est là. Qui, à d'abord, chez Ushalem, c'est qu'une chose qui est Shalem, j'ai traduit parfaite tout à l'heure. Mais vous savez très bien, j'aime pas ce mot-là, qui est en plénitude. Atralato vesofo mitchaverim. Son début et sa fin se joignent, be'echad, en une seule chose. Kemo shetire bakadur, comme tu le vois dans la circonférence, en hébreu moderne, kadur, ça veut dire un ballon, c'est-à-dire une sphère, mais ça veut dire d'abord agol, c'est-à-dire un. Une circonférence. Chez Ushalem, chez Mithaber, Sofo et Hilato, Vehu, Ashlama, les gamins. Et c'est une plénitude complète. Tu es sur le test. Velachen Amar Moshe, Eslicha. Velachen Amar Moshe, c'est pourquoi Moïse dit, c'est un verset où, avant de quitter Israël, il dit Mileu Yamai, mes jours se sont emplis. Ki Ayash Notav Shlemim Meleim, car ces années étaient complètes, pleines, ve'ayu yamav, et ces jours ont été me'a ve'esrim shana, c'est-à-dire 120 ans. Suivez bien. Ve'hem yud bet bemispar katan. Et 120, c'est 12 dans mispar katan, c'est-à-dire le petit compte. Je vais vous expliquer ça, que ça veut dire. Non, j'ai mal traduit. Et je vais vous expliquer au tableau. Que c'est Mispar Gadol et que c'est Mispar Katan. Vous savez déjà? Non. 120, ça s'écrit en hébreu. Tout, K, 120. Okay. Dans le Mispar Katan, suivez, toutes les lettres qui sont des chiffres sont ramenées à l'unité. C'est-à-dire, Kouf, c'est 100. Alors on le ramène à 10. K, 4, c'est 20. On le ramène à 2. Ça fait 20. Donc 120 renvoie à 12. Alors ça, on l'appelle le mispar gadol. Et ça, le mispar katan. Vous y êtes ? C'est clair ? Bon. C'est-à-dire 120 et 12, c'est la même chose, mais à deux exposants différents. Bon. Quelle est la correspondance qu'il veut nous établir ? Vayu yama mea ve'esrim, et ses jours étaient de 120 années, ve'em yud bet, et ses 12 bemispar katan, dans le procédé qui est appelé le mispar katan, je ne peux pas traduire parce que petit compte, ça ne veut rien dire. Kemo, mispar Moshe bemispar katan. De même que le mot de Moïse dans le mispar katan. Le mot de Moshe, Moshe. Ça fait 245. Alors même qui est 40 devient la lettre. Ok. Shin qui est 300 devient la lettre 3. Et He qui est 5 reste He qui est 5. 5 et 3 et 4, ça fait 12. Donc Moshe ramené au mispar katan, c'est aussi le mispar katan de 120. Non, parce qu'on ramène à l'unité précédente. Okay. 100, ça devient 10. 10, ça devient 1. Okay. Pour penser qu'un mispar katan yoter serait ici 3.
Mais là, le chiffre 300, ça devrait donner 30.
Non, c'est ramené. Quand je dis c'est ramené à l'unité, c'est ramené aux 10 premières lettres des unités. Okay. Par exemple, kaf 20 devient 2, etc. Si nous avions ici Yud, ça serait un Aleph. C'est ramené à la série des unités. Les deux façons, ici ça fait 12, et ici ça fait 3, 12. Mais ce 12-là et ce 12-là peuvent être ramenés à 3. Pourquoi le Maharal ne va pas jusqu'à 3? Parce qu'il nous expliquait la correspondance des 12 mois de l'année. Okay. Vous y êtes? Bon, écoutez, là vous avez un petit aperçu. Comment dire, des convergences de registres de cohérence qui aussi sont absolument absentes de la pensée naturelle. Okay. C'est propre à l'hébreu. Mais quand même, j'ai un peu étudié ces choses-là, c'était vrai des langues originelles tant qu'elles sont restées traditionnelles. Okay. De toutes les langues originelles tant qu'elles sont restées traditionnelles. Mais aujourd'hui, il n'y a plus que l'hébreu. C'est possible, mais alors faites attention, je ne dis pas ça exprès pour toi. Bien sûr, il y a toutes les possibilités de calcul fantasmagoriques, enfin, je ne sais pas comment on dit. Imaginaire. Non, ce n'est même pas imaginaire. Hein? Non, qu'est-ce que je veux dire? J'oublie mon français, moi, à 1h du matin. Non, tous les calculs farfelus possibles. Comment on veut dire ça? Ken, mais Tsarfati. Oui, quelque chose de ce genre. Hein? Bon, parce qu'il n'a aucune base, vous comprenez? Je veux dire, quelque chose de ce genre nous ont été donnés par les maîtres dans les livres qu'on a entre les mains. Ken? Mais toutes ces choses-là sont secrètes. Il y a des règles. Et quand on ne connaît pas les règles, on peut faire dire n'importe quoi de n'importe quoi. Or, sachez que c'est faux. Vous entendrez souvent ces choses-là. Al Talmud, il peut dire une chose et son contraire. Sachez que ce n'est pas vrai. Okay? Et que les ignorants qui parlent comme ça. Ou bien qu'avec la Kamatria, on peut faire dire n'importe quoi, n'importe quoi. Ce n'est pas vrai. C'est une science exacte. Ou on la connaît, ou on ne la connaît pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais je répète souvent cela. Il faut que je vous apprenne des choses élémentaires parce que c'est nécessaire. Okay? Essayez de raisonner toujours en partant des choses les plus élémentaires, les plus simples, les plus... Regardez une chose. Cette inconséquence qu'il y a avec le judaïsme, au fond, depuis l'émancipation, c'est-à-dire depuis que les gens sont vraiment devenus ignorants et se prennent pour des gens intelligents. Par exemple, pour devenir médecin, si c'est sérieux, on sait très bien qu'il faut des années et des années d'études. Okay? Il faut 40 ans d'études à un médecin pour faire un diagnostic d'une heure. Okay? Mais dès qu'il s'agit du judaïsme, n'importe qui pense le droit de dire n'importe quoi du dedans d'une ignorance totale. Méfiez-vous de cela, okay? Parce qu'actuellement, nous sommes dans un temps de abêtissement de la pensée juive. C'est pourquoi il y a tellement de livres brillants qui paraissent. Okay. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Okay. Méfiez-vous de ces choses-là. Okay. Bon, j'espère que vous avez quand même un peu perçu cela. Okay. C'est, et je ne sais pas comment on disait ça à Sarcelles, mais c'est studio de compagnie. Là, méfiez-vous, ne okay perdez pas votre temps, oui, si ça vous intéresse, pour vous délasser, vous pouvez les souliers, vous pouvez... et au lieu de lire les pieds nickelés, vous pouvez aussi lire, j'allais dire... Mais le temps de l'étude, c'est évidemment pas ces choses-là. Hein. Faites attention. Ça encombre les bibliothèques, des livres de n'importe qui veut gagner de l'argent. Alors, s'il écrit sur n'importe quoi pour lui qui est juif, ça passe. Hein. Donc, aucune idée. Je ne veux pas vous citer des livres pareils parce que, comme je vous connais, vous allez risquer de meubler vos crépuscules avec ça. Ce que vous avez à faire, c'est le Chumash et Rashi 10 ans, et après, le reste en même temps. Et après, recommencer.
Non, mais inversement, est-ce que vous pourriez nous donner une liste de bons livres ?
Oui, oui, Chumash Rashi. Écoutez, soyez sérieux. Soyez sérieux. Écoutez, je vais vous raconter une histoire, je ne sais pas si je vous l'ai racontée au début de l'année. Quand j'ai fait mes études en Sorbonne, là, et je devais faire un certificat de psychologie, et la matière à option, c'était pédagogie. Bon, j'ai eu un professeur excellent. Je ne sais pas si je vous ai raconté ça. Il nous a réunis au début de l'année, un quart d'heure. Okay, et il nous a dit, voilà, la pédagogie, c'est intéresser les élèves. Et maintenant, voilà une liste de livres sur lesquels vous serez interrogé à l'examen. Rendez-vous dans un an. C'est-à-dire, Chumash Rashi. Et ce que vous voudrez, je m'en fous. Mais si ça vous intéresse, il n'y a pas de livre plus ou moins sérieux. Ça n'existe pas. Il y a le Chumash Rashi. Et après, vous saurez lire n'importe quoi. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous allez lire encore du judaïsme en français? Vous n'avez pas honte?
Non, je parle
des philosophes en français. En français. Écoutez, les seuls livres qui peuvent vous aider, c'est des livres qui vous servent de dictionnaire pour mieux comprendre les sources en hébreu. C'est tout. Je sais pas, mais je vous parle en français.
Les livres d'histoire comme Yaakov, comme...
Bon, si ça vous intéresse, eh ben, lisez pour Yaakov et le reste. Je sais pas, écoutez, moi, posez une question, je vous ai donné une réponse. Comment vous voulez pouvoir lire Maïmonide si c'est pas en hébreu? Et comment vous voulez arriver à Maïmonide en hébreu si vous passez pas par le Chumash Rashi?
Qui a été écrit en arabe par Maïmonide.
Oui. Bien sûr, à moins que vous puissiez lire en arabe, c'est mieux, puisqu'il a écrit en arabe. Mais sinon, lis-le en arabe. Mais tu ne peux pas le comprendre en arabe si tu n'as pas lu le Chumash Rashi non plus. Pourquoi? Et c'est évident. Bon, je ne sais pas, si déjà, vous êtes depuis combien de temps ici? 4 mois, 5 mois? 6 mois déjà. Si vous n'avez pas encore compris ça, okay, qu'il faut commencer à l'alphabet, alors qu'est-ce que vous avez compris? Bon. Alors, où est-ce qu'on est arrivé? Ah oui, au Mispar Katan de Moshe. Le Mispar Katan, Vedabar Zemore, qui a eu Yamav Meleim le Gamre. Et c'est donc une indication que l'identité de Moïse, qui est exprimée à travers différents niveaux par ce Mispar Katan de Yudbet, cela indique, ça fait allusion au fait que cette identité est une identité pleine de ses jours à elle. Ken Yamav. Ushlemim kasher ayush notav et Mispar shemo. Par le fait que ces années correspondent au nombre de son propre nom. Kien Lomar, qui a sauf chez l'eau, vous mourrez à la RDR. ce qu'on a, on ne peut pas dire, c'est que la fin signifie l'anéantissement. Vous voyez ? La fin, c'est la fin du cycle d'engendrement d'une identité qui, une fois engendrée, entre dans l'histoire comme éternelle. Habituez-vous bien à cette idée. Okay ? C'est pas clair, Khaïm ? Non, non, mais dis-moi, oui ou non, ne me dis pas peut-être. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas ? Non, non, vous êtes là pour... D'accord, mais c'est clair, c'est intégré. Okay ? Ah, ne dis pas comme ça. Qu'est-ce que tu comprends pas ? Oui, ça veut dire que... Et rappelez-vous le schéma que j'ai fait sur les années. Oui, la crise. Vous voyez, ce temps de l'année, du Shana, le temps du soleil, qui est un commencement, une apogée, un éclair, une fin, fini. Sauf, c'est la fin. Après, néant. Okay. Comment ? Dans l'éclair, il s'agit d'un commencement qui se relie à sa fin, et dès qu'on est arrivé là, apparaît une figure éternelle. Ça va un peu mieux ? Okay. C'est-à-dire qu'il y a engendrement de la figure géométrique, mais dès qu'elle a engendré, elle se dévoile comme éternelle. Elle a précédé le procédé mathématique de l'engendrement. Et une fois qu'elle est là, elle est là éternellement. Qu'est-ce qui était dans le temps ? Le temps de la découverte, mais pas l'existence de la notion mathématique. Okay ? Quand vous avez découvert un théorème, eh bien vous l'avez découvert à un temps X de l'histoire du monde. Mais ce que vous avez découvert précédait votre découverte. Et donc est éternel. Non ? C'est le triangle n'a pas commencé le jour où on l'a défini. Le jour où on a défini le triangle, on a découvert une réalité éternelle, le triangle. Ça y est, c'est clair ? J'ai pas l'impression. Hein. Ben écoutez, c'est pas parce que je vous impressionne qu'il faut croire ce que je dis. Hein. Non, je veux dire, c'est pas comme ça que ça doit procéder. Hein. Je vous ai cité déjà Descartes. Qu'est-ce qu'a dit Descartes ? Je pense donc je suis. C'est pas il pense donc je suis. Si un jour je vous apprends à dire Manitou a dit donc c'est vrai, gare à vous. Parce que c'est pas ça. Tant que vous n'avez pas compris en quoi c'est vrai, c'est pas vrai pour vous. Pensez pas avec ma tête. D'ailleurs, vous auriez mal de tête. Hein. Simplement, écoutez, je vais essayer de vous habituer à la différence qu'il y a entre la pensée de l'ingénieur et la pensée du savant. Le savant découvre des vérités. Et les vérités qu'il découvre sont éternelles. Il découvre ce qui existe déjà dans la vérité. Okay. L'ingénieur invente des procédés. Et avant qu'il les ait inventés, ils n'existaient pas. Être ingénieur, c'est un art. Alors qu'être savant, c'est une science. Vous voyez la différence ? C'est clair ? Bon. Eh bien, c'est ça. Descartes a parlé des idées innées. Les idées innées sont les idées vraies. Okay. Elles sont innées. Elles sont enfouies dans mon inconscient. Je parle le langage de Descartes, hein, on est dans le monde de Descartes. Elles sont enfouies dans l'inconscient. Et l'étude, c'est les faire passer à la conscience. C'est clair ? Des idées innées, mais innées, nées avec moi. Okay ? Mais je ne les connaissais pas, tant que je ne les connais pas. Mais dès que je les connais comme éternelles. Alors, il y a une autre catégorie d'idées dans le langage de Descartes, les idées adventices. C'est un mot du Moyen-Âge, adventices, qui sont advenues. Okay ? Les idées adventices, je les ai acquises. Et avant que je les acquière, elles n'étaient pas en moi. Alors, les idées adventices s'enseignent. Les idées innées se découvrent. C'est clair ? Bon, une troisième sorte d'idée, les idées factices, qui ne correspondent ni à la réalité ni à la vérité, c'est l'imagination. Factice. Okay. Bon. Des idées factices ?
L'imagination.
L'imagination. Tout le monde en parle de l'imagination. Les Maïmonides parlent de l'imagination. Non. sors pas du sujet à côté, tu vois. Quand tu m'as dit, chercher tout de suite où dans le vocabulaire de Maïmonide il y avait les idées factices. Okay. Ce concept-là, okay. Où tu as lu ça? Dans le Guide des Égarés?
Non.
Dans les Chemins d'Apocalypse?
C'est-à-dire dans un traité,
un culture des Égarés. Ah oui, dans le Guide des Égarés. Donc, attends, traduit en français. Quel était le mot précis du traducteur? Factice ou les imaginaires? Tu ne te rappelles pas? Factice. Bon, donc c'est que le traducteur a traduit cela. Donc, mais chez Maïmonide, un autre concept un peu différent. Bon, peu importe, c'est pas tellement grave. Mais méfiez-vous, tant que vous n'avez pas lu le mot Renebuchim en hébreu, vous risquez d'être le plus égaré des guides et pas le guide des égarés. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas commencer à l'envers. Hein. C'est-à-dire la méthode que j'emploie avec vous consiste à commencer à l'envers. Okay. Imaginez qu'on fasse des intégrales avant de faire de l'arithmétique. Okay. Mais quel est l'objectif? C'est de vous faire découvrir qu'il faut recommencer à l'endroit. Mais je ne vous le répéterai jamais assez, même s'il vous faut une quantité héroïque d'humilité, de recommencer à l'alphabet. Sinon, vous resterez des ignorants brillants toute votre vie, et c'est dommage. Vous voyez ce que je veux dire? Superficialité profonde. Vous n'avez aucune idée à quel point c'est moche. Des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, mais qui en parlent avec des grands mots. Non, mais c'est vrai, je suis très sérieux, je fais de la pédagogie appliquée. Hein, ben, on est convaincu, hein? Donc, Alakha le Maasé, Chumash Rashi. Je vais raconter une histoire du Maharal. Je ne sais pas si je vais la raconter. Non, je crois que je vais la raconter. Sinon, c'est que ce n'est pas à vous. Le Maharal a été un des grands maîtres de la connaissance de Rashi. Probablement avec Nachmani, un des plus grands qui ait existé. Et pour comprendre Rashi. Rashi, c'était énorme. Et alors, au fait, j'ai oublié de vous dire... à quel point nous sommes privilégiés, Menachem Gourari, c'est un descendant du Maharal, en ligne directe. Et la famille a pris le nom de Gourari, qui est le nom du Pirouge du Maharal sur Rashi. Le Pirouge du Maharal sur Rashi s'appelle Gourari. Donc. Et alors, vous voyez les gens fréquentés. Et alors, un jour, il devait faire passer des examens de rabbin à un élève. Alors l'élève qui va chez lui, il dit, voilà, ben, je suis venu passer la smicha. Alors le Maharal lui dit, qu'est-ce que tu sais? Il dit, je sais la moitié du Talmud. Il dit, je ne peux pas t'interroger. Chaque fois que je t'interroge, il va me dire, c'est dans l'autre moitié. Alors il a dit, qu'est-ce que tu sais vraiment? Alors il a dit, ben, je sais vraiment Chumash Rashi. Alors le Maharal lui a dit, alors si tu sais vraiment Chumash Rashi, tu peux me remplacer. Vous voyez de quoi il s'agit. Alors non, c'est très sérieux ce que je vous dis. Tant que vous n'avez pas la lecture de Rashi sur la Torah, le reste, vous ne pouvez pas commencer. Sinon, c'est de l'amateurisme, comment on appelle ça en français? Il y a un mot qui m'échappe. Non, ce qu'il ne fallait pas que je vous le dise. Imposture. Le mot que je cherche. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors, on revient au Maharal. Qu'est-ce qu'on est arrivé? Quel? En l'omar qui a sauf chez l'eau, ou moré à la herder, vechisaron, mi pene chez vous sauf. Mi pene chez vous sauf. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que puisque c'est un sauf, un achèvement, une fin, quel? Ça signifie qu'après, il y a le néant et le manque. Okay. Qui adraba, car au contraire, areu more ashlama, cette fin qui se relie au début, okay, d'un cycle complet, ça montre la perfection, l'achèvement, mais dans le sens de perfection. Kasher ushlemu hayamim miyom leyom, par le fait que son temps de vie s'est achevé de jour à jour. Ça veut dire, si vous voulez, non, je ne vais pas encore vous donner de comparaison, mais gardez la comparaison du Maharal, Ken, 120 ans pour constituer ce cercle, mais une fois qu'il est constitué, eh bien, il ne disparaît pas, au contraire, il reste éternel. Est-ce que c'est clair? Dans la comparaison avec la notion mathématique, le geste mental de génération, comme disent les mathématiciens, vous savez que toute définition mathématique doit être une définition générique. Par exemple, prenons le cas du cercle. Quelle est la définition du cercle que vous allez donner? Si vous donnez comme définition du cercle les points équidistants d'un centre, okay, alors vous donnez la définition du rond. Okay. En réalité, la définition du cercle, c'est le lieu géométrique engendré, définition générique, par la rotation d'un segment autour d'une extrémité. Okay. C'est-à-dire la seule définition mathématique cohérente, c'est celle qui engendre la notion. Or, cette notion n'est pas figurable. Elle est notionnelle. La figuration, c'est un exemple dans le monde de la réalité très grossier. Parce que si vous dessinez un rond au tableau, okay, en première approximation, un peintre qui a la manière vous fera un cercle, apparemment un rond parfait. Vous le regardez à la loupe grossissante, vous voyez que ce n'est pas du tout une circonférence parfaite. C'est un amas grossier de petits points. Où est la circonférence? Elle n'est pas dans la réalité. Est-ce que vous arrivez à suivre? Okay. Pour vous dire ça, déjà Platon l'avait expliqué pour les philosophes. Le cercle n'est pas rond. L'idée de cercle n'est pas ronde. C'est une idée. C'est une définition. C'est une notion. Elle est au niveau de la pensée sans image. L'image, c'est déjà empirique. Okay. L'image, c'est le rond. Mais le cercle, ce n'est pas l'image du rond. Le cercle, c'est la notion du lieu géométrique engendré par la rotation. Ça, ce n'est pas rond. C'est clair? Pas plus, ajoutera Bergson plus tard, que l'idée de chaleur n'est chaude. L'idée de chaleur n'est pas chaude. L'idée de douleur n'est pas douloureuse. L'idée de cercle n'est pas ronde. Ça y est, ça va? Platon indiquait cela en se moquant des gens à qui il parlait. D'ailleurs, ce n'est pas mon cas. Il disait, regardez, vous ne comprenez rien. Blanc et blanc, ça fait blanc. Noir et noir, ça fait noir. Chaud et chaud, ça fait chaud. Un et un, ça fait deux. Rien à voir. Oui, il se passe quelque chose, là. Alors, réfléchissez bien. Que la pensée authentique, c'est la pensée au-delà des images. Vous vous rappelez les 10 commandements. Tu ne te feras pas d'image. Ça commence là. Bon, alors habituez-vous un peu à comprendre cela. Okay. Ça y est, c'est clair? Donc, un peu plus, j'espère. Alors, Vézé se sauf des 120 ans, jour pour jour. L'Ohavé, cela n'est pas autre chose, rak que Ashlama, achèvement d'une réalité qui devient éternelle. Vélo, chayar, basé, sauf. Il ne s'agit pas ici de fin, d'interruption. Les rares moraient, et c'est pourquoi cela nous montre qu'il est arrivé à sa perfection. Et tout ce qui est arrivé à sa perfection appartient à Dieu, asher meito nibra, duquel il a été créé. Véaliakshe, et tu ne dois pas t'objecter, Lama lo hayaze beshear tzadikim. Pourquoi cela n'a pas été aussi pour les autres tzadikim, comme par exemple Abraham, Isaac, Jacob? Ils n'ont pas vécu 120 ans parfaits. Oui, le souhait des Juifs, Adma Vesrim, jusqu'à 120 ans. Vous voyez le modèle. Et ce que nous avons appris pour les autres tzadikim, c'est qu'ils arrivent à la fin de leur vie, exactement à la fin de la quantité de temps que Dieu leur a donné sur terre. Okay. Mais on n'a pas ce cas exceptionnel de Moïse, les 120, ils vont montrer qu'il y a une figure géométrique parfaite. Okay. Qui kvar amarnu, car nous avons déjà dit d'autre part, qui Moshe aya tsurat Israël, que Moïse était la figure d'Israël. Moshe est la figure du klal. Okay? Et voyez à quel point, je reviens sur ce problème, on y a touché ce matin déjà tout à l'heure, à quel point il y a une différence de mentalité entre l'hébreu et les goyim. Okay? C'est-à-dire que il n'y a pas ce cas que Moshe se soit pris pour l'incarnation du klal Israël. Okay? Il aurait été divinisé, comme les goyim ont fait de leur suspendu. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Vous voyez que c'était la faute du Erev Rav. Vous suivez, hein? Le Erev Rav avait tendance à diviniser Moïse. On pourrait dire, il y avait de quoi, aux yeux d'un goy, il y avait de quoi. Un juif ne fait pas ça. Vous suivez? C'est bien clair. Et vous voyez que toute cette histoire des évangiles, c'est un mythe pour goyim. Je me rappelle une fois, il y a très longtemps, le Misra d'Achoutz m'a demandé de recevoir dans un couvent de la vieille ville, là, un groupe de chrétiens pèlerins, hein. Et puis alors, ils m'ont demandé de leur faire un exposé sur le judaïsme, ils voulaient connaître qu'est-ce que c'est. Bon, je leur ai fait un exposé sur le judaïsme pendant une heure et demie, sans faire allusion à leur Jean-Claude. Et alors, à la fin, une bonne femme, plus c'était une bonne sœur, mais enfin, peu importe, une brave femme, qui avait l'air d'ailleurs très pieuse, très normale, comme vous. Et alors, elle s'est levée, elle me dit, mais monsieur, vous nous avez parlé pendant une heure et demie du judaïsme, vous n'avez fait aucune allusion à Jésus. Et j'ai bien compris que ce qu'elle attendait, c'était que je me félicite de l'avoir donné ça à moi, juif. Moi, peuple juif. Qu'est-ce que je dis? Alors je lui ai répondu, mais écoutez, vous avez bien compris qu'on peut parler de tout ce qu'il y a comme différent entre nous, les choses sérieuses, sans faire allusion du tout à cela. Alors elle a insisté, elle me dit, enfin, c'est pas possible, pourquoi vous n'avez pas parlé de... Elle a reçu ça comme nivgamisé, comme on dit. Pas un affront. Non, pas un affront, un affrontement. Ken, elle était touchée, secouée. Ken. Alors j'ai dit, écoutez, ne me provoquez pas, ne m'obligez pas à vous dire ce que je pense. Simplement, je pense qu'effectivement, tous les problèmes que nous avons entre nous peuvent se traiter sans faire du tout allusion à cela. Là, vous avez une passion, on ne discute pas sur les plans. Alors je dis non, je veux avoir votre avis, qu'est-ce que représente pour vous, comme ça en public il y avait 200 personnes. Alors je dis écoutez, je vais vous raconter un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est une figure mythique d'Israël proposée à l'adoration des goyim. Alors elle a tout de suite compris, elle a dit touché. Okay? Parce que ça veut dire que c'est vrai que c'est ça pour eux. Vous voyez ce que je veux dire? Okay? Qu'au fond, ce qu'ils adorent, c'est Israël en effigie. Okay? Et que finalement, ils ne peuvent pas ne pas le pressentir. Et alors, bon, après, elle est venue me parler, elle m'a dit, vous avez raison, moi, je ne suis pas du tout croyante de ces choses-là, mais je voulais savoir quel était votre avis, et bien, vous m'avez rassuré, c'est bien ça, Tamara. Je m'en parlais tout de suite, comment elle a répondu, touché. Alors, revenons au problème. Vous voyez, si le peuple hébreu avait été des goyim, Moïse aurait été l'adoré par excellence. Il y avait de quoi. Vous suivez cela? Et que ça a été la tentation du Erev Rav. Okay. Bon, on continue? Pas de questions? Bon. Alors je reviens. Pourquoi Moïse, par excellence, qui Moshe Hayat Tzurat Israël, qui Moshe Amarti, la Tzurat Hishlema, Blito Sefet Velochesro. Moïse est la figure d'Israël, et si je veux connaître qui est Israël, eh bien il faut que je connaisse qui est Moïse. Oui. Et une figure, une forme dans le sens philosophique. Hein, un peu ce que j'ai donné comme exemple de la notion mathématique. Et vous voyez la difficulté du langage. La forme en tant que notion n'a pas de forme. Le cercle n'est pas rond, c'est une notion. Okay. Dans le monde des images, alors on vous montre un rond. Okay. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Okay. Rappelez-vous ce que je vous ai rappelé de Platon et de Bergson. Bien sûr, Descartes, ça va de soi, mais enfin, que l'idée de cercle n'est pas ronde, pas plus que l'idée de chaleur n'est chaude, pas plus que l'idée de douleur n'est douloureuse. Okay. Et alors, si l'idée de douleur devient douloureuse, c'est que c'est une douleur morale, mais pas une idée. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Bon. Et alors, une forme n'a pas de forme. Enfin, une figure, tsoura, comme il dit, n'a pas de forme. Elle est, sa manière d'être est d'une essence qui n'a pas de tavnit, de dessin. Hein? C'est une notion. Hein? Les philosophes du Moyen-Âge appelaient ces réalités des intelligibles. On ne peut comprendre que par la pensée, pas par les sens, pas par l'imagination. On est obligé de se servir de l'imagination comme de béquille. Quelqu'un qui ne comprend pas que c'est un cercle, lieu géométrique engendré, alors on lui dit, tu vois un rond. Eh bien, c'est ça un rond. Okay. Vous avez compris le problème. Vous savez, si vous faites des mathématiques, il y a des mathématiciens parmi vous. Quelqu'un qui a commencé des mathématiques? Non? Un peu. Okay. Bon, vous savez ça. Que les notions mathématiques sont des êtres de raison. Elles ne correspondent pas à des images. Okay. Et les véritables mathématiciens accèdent à ce niveau de la pensée sans image. Si on est obligé d'appuyer sur l'image, c'est qu'on n'est pas mathématicien. Okay. On peut être artiste, c'est autre chose. Vous avez compris le problème. Alors là, le Maharal reprend sa définition, c'est que une tsura, elle est shlema, bli tosefet velo hesrod. Il n'y a rien à ajouter ou à enlever. Okay. Mais d'abord, Zéadoua, et cette chose-là est connue. Suivez sur le texte. Hein. Ce n'est pas écrit sur ma figure, c'est écrit dans le ciel. Alors, Vedavarze, Yadoua. Et cette chose-là est connue. Ulchach, Hayu, Yamav, Shlemim. Et c'est pourquoi ces jours ont été parfaits. 120 ans, jour pour jour. Né le 7 Adar, et puis mort de la mort terrestre, ayant quitté la vie terrestre, le 7 Adar, 120 ans après. Vous voyez que s'il s'agissait, ces thèmes-là, s'il s'agissait de Goïm avec la mentalité Goï, vous aurez un culte d'adoration de Moïse. Réalité divine, incarnée. Oui. Vous avez compris bien cela. Alors, méfiez-vous. Vous êtes des Juifs, vous n'êtes pas des Goïm. Mais Ulcha Chayou Yamav Shlemim, et c'est pourquoi ces jours ont été parfaits, Bli Tosefet Vehesrol, sans ni ajout ni manque, qui van chez Mithaber Tachlitan et Lathalatan, puisque se relie leur fin à leur commencement. Vehathalato va minachemit barach, or le commencement de Moïse vient de Dieu lui-même, Asher Baraoto, qui l'a créé, Vehach Tachlito, et de même sa fin, Asher Mithaber et Lathalato, qui se relie à son commencement. Je traduis, mais comprenez ce qu'il dit. Hein. Oui. Où est la chemin de Barach? Baisez-vous caché à Yamam Shlemim. Et cela se produit quand ces jours sont effectivement parfaits. Bélit au Sefet, oubli Chesrom, sans ajout ni fin. Vous remarquez une chose dans le style du Maharal. Il semble y avoir des répétitions à chaque phrase. Il n'y a jamais de répétition. Vous comprenez bien cela. Okay. Chaque fois, il y a une nuance différente. C'est-à-dire, la pensée du Maharal, c'est une pensée en spirale. Okay. Jusqu'à ce que vous compreniez. Quand il arrive au bout de la spirale, il vous dit, et ça, c'est facile à comprendre, tout ce que je t'ai dit, si t'as compris, t'as compris, si t'en as pas compris, il passe. Okay. Ouais, le problème. Alors, je reviens. Kemoshe Aya et Tsemoshe, ça a été le cas au sujet de Moïse, chez Ayu Yamav Shlemim, dont les jours étaient Shlemim. Ça fait 17 fois qu'il nous répète ça. Hein. Mais chaque fois, remarquez bien, quand vous reviendrez 17 fois sur le texte, avec chaque fois, il y a un chidouche qui apparaît. Mais vous n'y arriverez jamais si vous ne commencez pas par Chumash Rashi. Écoutez, vous voyez toutes les délices d'études qui vous attendent quand vous y arriverez. Alors, prenez la route. Ou basé mitraver à Tachlit et la Atrala. Et c'est par là que se relie l'objectif, la fin dans le sens de objectif, Tachlit, okay, au début, ou Bishvilkar, et c'est pourquoi Houshalem, il est parfait. Ou Mitzad Ashlama, et du côté de cette. Hein? Ken, ou Mitzad Ashlama, Rou et la Shemin Barach les Gamré. Il appartient à Dieu complètement. Vous voyez ce qu'il dit pas tout en le disant, mais sans le dire. Que vous comprenez ce qu'il y a des... Alors, ça veut dire de quelle autre manière? C'est qu'à sa mort, Moïse est devenu divin. Mais c'est pas justement, il ne le dit pas, parce que nous sommes des Juifs. Si on dit ça, les goïms vont dire, vont l'entendre à leur manière. Okay? Mais il est divin dans quel sens? Dans le sens du Inyana Eloki, que le Créateur a voulu créer un être parfait. Ça a réussi chez Moïse. Et c'est pourquoi il est la figure d'Israël. Il est le Inyana Eloki par excellence. Vous suivez? Bon. Mais n'oubliez pas que le judaïsme est la seule religion où il n'y a pas de culte pour l'être parfait. D'Afka. Que ça, c'est la définition d'idolâtrie. On délègue magiquement à une figure mythique la responsabilité du salut. Qu'est-ce qu'est Moïse? Il est notre maître. Il n'est pas un objet de communion. Mais à quel point tout cela, vous avez vu ce qu'ont réussi à faire ces fondateurs du christianisme, à faire la pire des idolâtries qui existent, l'idolâtrie de la Bible. Et vous voyez la nécessité de non seulement de décrocher de cette fascination judéo-chrétien soi-disant, mais le parti pris de annulation de ce mythe. Okay. Bon, ça on le dira pas en public, mais le judaïsme comme tel n'a qu'un seul souci, c'est la disparition du christianisme. Parce que tant que le christianisme existe comme religion de la Bible, la morale ne peut pas être fondée dans la civilisation. C'est-à-dire ça va jusque-là. Okay. C'est clair? Vous savez ce que disait Pascal? Le silence des espaces infinis m'effraye. Qu'est-ce qu'il y a dans ce silence? Bon. Alors on a remarqué que le mot de Moshe, c'est le mot de Hachem dans l'autre sens. Remarquez ça. Hein? Alors, ne me faites pas dire que je vous ai dit que mon chef c'est Hachem, hein? Même pas à l'envers. Bon, on continue. Alors, le Maharal, maintenant, après cet exposé, va nous donner un deuxième enseignement. Ve ira l'Omar. Et donc, il apparaît maintenant, qui biche Milkar, que c'est pour cela. Hayu haye Moshe. Il faut dire Shana. C'est pour ça que les années de Moïse devaient être de 120 ans. Qui mispar, mais avait Esrim, car le nombre de 120, mais mispar katan, en mispar katan, c'est Yudbet, c'est 12, va kadour chez Ushalem, et la circonférence qui est parfaite, nechelach le Yudbet, se divise en 12. Comment vous appelez ça? J'ai oublié des grades. En 12 degrés, c'est ça. Vehe Yudbet Mazalot. Et il s'agit de quoi? Eh bien, des 12 constellations de l'univers. Barakia dans le ciel. Vous suivez? Alors suivez. Vehe Kadour, Ushalem le Gamre. Le Kadour, la circonférence, la sphère céleste, est parfaite, entièrement. Umitraber Asof et la Atrala. Et sa fin se relie au commencement. Subitement, on a changé de régime. Vous avez remarqué en parlant des mêmes choses. Okay? Alors, suivez bien. L'Omar, c'est pour te dire, chez Nkansov, qui n'a pas de fin. Une circonférence n'a pas de fin. Une sphère n'a pas de fin. Okay? Elle est d'emblée éternelle. Vekol Zemore, Al-Shlemut Yama. Tout ceci est indiqué dans la perfection du nombre de séjours. Umipena Al-Shlemut. Et à cause de cette perfection, de par cette perfection, où est la chemise de Varar? Il fait partie, il appartient à Dieu. Abal, im haya mimitato bechodesh acher. Mais si sa mort avait été dans un autre moi, l'Ohayamita Torah Ke'ader, ça m'aurait été l'arrêt, l'anéantissement, pas l'anéantissement, la fin. Ken? Veloshlemut Klal, et pas la perfection du tout. Ulchar, c'est pourquoi, Kacher Haman, lorsque Haman a vu, Shenafal Agoral Bechodesh Azeh Aharon, que le sort est tombé sur ce dernier mois de l'année, Kusamar, il a été content. Ken? Il était prêt à faire pourrir le pauvre. Et Roussamar, il s'est réjoui. Qui amar, car il s'est dit, chez Aharon, que le dernier stade, mourait chez Eshlaem Aharim. Ça montre qu'ils auront une fin. Ou que mot, alors je vais changer de page. Ou que mot, chez Aya Yitziat Mitzrayim. Alors prenez la page, coupe la mêlée. Ok? Et de même, comme la sortie d'Égypte a été à Athala, le début, Bechodesh Aharon.